Alors, je suis particulièrement heureuse que Maria Sorokina, pardon, ait accepté de venir. Elle est doctorante à l'université Paris-Créteil. Et alors, ce matin, je vous ai dit que parfois, l'histoire des sciences, l'histoire de la philosophie avance, parce que si on fait des découvertes, parce qu'on trouve des textes qu'on ne connaissait pas, et là, on va avoir un bel exemple avec Maria qui a trouvé une source médiévale cachée. Un des textes emblématiques de la Renaissance, qui est la Disputatio contra Judicium Astrologorum de Ficin.
Merci. Bon, merci beaucoup et pour l'invitation et pour cette présentation. Je vais illustrer ce legs des auteurs médiévaux latins aux humanistes de la Renaissance par un exemple très précis, celui de la Disputatio contra Judicium Astrologorum de Marsile Ficin, c'est-à-dire le traité qui s'intitule Le dispute, la discussion contre les jugements des astrologues, un traité qui a été rédigé à la fin des années 1470 et sa source médiévale cachée. Donc, Marsile Ficin n'a pas besoin de longue présentation. C'est l'une des figures centrales de la Renaissance italienne. Un grand philosophe, sa philosophie est surtout imprégnée de néoplatonisme et s'inspire aussi d'autres sources. Et finalement, c'est une philosophie assez indépendante. Ficin est également le traducteur de Platon et de Plotin et leur commentateur. Donc, on voit ici, il a rédigé le commentaire sur le banquet de Platon. En 1474, il a écrit le traité La théologie platonicienne, théologie platonique, ainsi que le commentaire sur les Énéades de Plotin. Finalement, il est le créateur de l'Académie platonicienne grâce à la protection de Combes de Médicis, un cercle assez informel des philosophes, dont Jean-Pic de la Mirandole, Ange Policien. Et ce portrait de Ficin, assez connu, on peut le voir dans l'église florentine Santa Maria Novella, dans la Cappella Tornabuoni, décorée par le peintre Domenico Ghirlandaio, notamment sur le fresque représentant l'annonciation de l'ange à Zacharie. On voit non seulement les personnages bibliques, mais aussi quelques personnages contemporains du peintre, dont ce groupe de philosophes. Cristoforo Landino, Ange Policiano, et voilà ici à gauche Marsile Ficin. Le cercle d'intérêt de Ficin est assez large: la théologie, la philosophie, la médecine, la magie astrale, la fabrication de talismans, comme Nicolas Viparò vient de démontrer, et aussi l'astrologie. Et la question de l'astrologie dans l'œuvre de Marsile Ficin a attiré l'attention des historiens à plusieurs reprises. Donc l'intérêt de Marsile Ficin à l'égard de la science des astres est manifeste durant toute sa vie, dans toute son œuvre. En revanche, sa position à l'égard de l'astrologie est loin d'être invariable. Et notamment, ce traité, la Disputatio contra Judicium Astrologorum, 1477, représente un véritable énigme. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une critique très sévère des croyances astrologiques. Or, dans ses lettres antérieures à 1477, ainsi que dans ses traités postérieurs, notamment dans le De Vita, un traité de 1489, Ficin est plutôt favorable à l'égard de l'astrologie. Notamment, il défend la médecine astrologique et la fabrication des images astrologiques, un type de talisman qui sont fabriqués compte tenu la position des corps célestes. Il existe plusieurs explications de ces hésitations de Ficin, notamment les historiens Oscar Christeller ou Eugenio Garan parlent d'un développement non linéaire de la pensée ficinienne. Tantôt Ficin approuvait les astrologues, tantôt il les condamnait, tantôt de nouveau il les approuvait. Il existe une autre hypothèse, celle de Daniel Pickering Walker, qui a proposé une autre chronologie de l'œuvre ficinienne. Il est supposé que la Disputatio a été écrite dans les années 1490 et non dans les années 1470. Ainsi, La disputatio est une œuvre tardive, une réfutation de l'astrologie vers la fin de la vie de Fusane, le développement de la pensée fusinienne devient linéaire, de l'approbation des astrologues jusqu'à la réfutation totale de toutes les croyances astrologiques. Et selon Volcker, Fusane aurait écrit son traité sous l'influence de Jean Pic de la Mirandole, un autre grand philosophe de la Renaissance, qui lui était très critique à l'égard de l'astrologie et a rédigé aussi un traité contre les astrologues. Mais il faut dire que cette chronologie proposée par Volcker est rejetée par la plupart des spécialistes. On a aujourd'hui les preuves quasiment irréfutables que la disputatio a été écrite dans les années 70 et non dans les années 90. Enfin, la chercheuse italienne Ornella Pompeo Faracovi insiste surtout sur le fait que la disputatio est une œuvre inachevée de Marcel Fusane. C'est une sorte de brouillon. En partie, c'est vrai. Il y a un seul manuscrit qui nous est connu, c'est le manuscrit autographe, partiellement. Et Fusane n'a jamais édité son traité. La disputatio n'a été éditée qu'au XXe siècle. Fusane ne l'a pas publié lui-même. Il y a certaines parties de la disputatio, pas tout le traité, mais certaines parties qui ressemblent vraiment à un brouillon, avec des répétitions, avec des corrections. Et selon Ornella Pompeo Faracovi, Fusane ne voulait pas refuter l'astrologie. Il voulait proposer une astrologie nouvelle, une astrologie améliorée, purifiée de tous les défauts. Et pour cela, elle a commencé par critiquer quelques pratiques astrologiques, quelques techniques, quelques règles précises. Mais il est allé trop loin, il était tellement passionné, il a fini par critiquer l'astrologie dans sa totalité. Il se retrouvait dans une impasse. Il ne voyait plus comment la justifier. Et par conséquent, il a abandonné l'écriture du traité et ne l'a jamais publié. Donc, en partie, cette hypothèse explique bien la place de la disputatio dans l'œuvre astrologique de Fusane. Mais il me semble qu'on peut aussi explorer une autre piste, celle de la source médiévale cachée. On va revenir à cette question vers la fin de l'exposé. Alors, bien que la critique totale de l'astrologie s'inscrive mal dans l'œuvre de Fusane, cela n'a pas empêché les historiens de tenir la disputatio en haute estime. Voilà une citation de l'œuvre de Eugenio Garan, un grand spécialiste italien de la philosophie de la Renaissance, qui écrit dans son livre consacré à l'astrologie dans l'œuvre des humanistes. Je vais citer un passage qui concerne précisément la disputatio de Fusane. Fusane développe une série de discussions serrées où il attaque l'astrologie divinatoire dans son ensemble. Là, ça part jusqu'à dans ses fondements. En parcourant les textes publiés par Christelle, donc Oscar Christelle a publié la disputatio au XXe siècle. En parcourant les textes publiés par Christelle, on ne peut s'empêcher d'être frappé par la vigueur de la critique. Les astrologues n'indiquent pas les causes des phénomènes, ils procèdent de façon désordonnée, dans la théorie des interrogations, ils sont équivoques, ils se trompent sur quantité de points, en attribuant une influence aux positions des planètes, dans la doctrine des maisons, dans les divisions du ciel, dans les qualités, les aspects, les exaltations, et ainsi de suite. Parallèlement à la défense de la providence divine et de la liberté humaine, on trouve un examen attentif, détaillé et subtil des diverses théories astrologiques, alliant aux objections d'usage et aux critiques banales, un effort d'analyse scientifique rigoureuse. Donc ici, on voit que Eugenio Garan tient la disputatio en haute estime, et qu'il présente ce traité de Fusane comme un certain renouvellement dans la polémique anti-astrologique. On voit d'un côté, il y a, dans la dernière phrase, il y a les critiques banales et les objections d'usage, et de l'autre côté, il y a un effort d'analyse scientifique rigoureuse, un effort que Marcel Fusane a entrepris. En quoi consistent les objections d'usage et qu'est-ce qu'il y a un effort d'analyse scientifique rigoureuse? Je vais expliquer en deux mots en quoi consiste la nouveauté de la disputatio de Fusane selon Eugenio Garan. En fait, quand il parle des objections d'usage, ici ce n'est pas explicite dans cet extrait, mais c'est plus clair quand on lit son livre. Les objections d'usage et les critiques banales sont plutôt les arguments des auteurs médiévaux. Tandis que Fusane nous propose un examen attentif, détaillé et subtil des diverses théories astrologiques. Donc, en effet, quand on lit les textes médiévaux polémique contre les astrologues, on peut trouver que les arguments sont un peu répétitifs. Donc tout d'abord, il faut dire que presque aucun auteur médiéval, et aussi très peu d'auteurs de la Renaissance, critique l'astrologie dans sa totalité. En fait, la quasi-totalité des auteurs du Moyen-Âge et de la Renaissance font une concession solide aux astrologues, c'est-à-dire ils reconnaissent la théorie de l'influence céleste. Donc, conformément à la théorie de l'influence céleste, les corps célestes sont les causes des événements qui se déroulent dans le monde terrestre. Les corps célestes sont les causes de certains changements corporels qui se déroulent ici-bas. Donc, presque aucun auteur ne nie que tel ou tel corps céleste, telle étoile, telle planète exerce une certaine influence sur le monde inférieur. Donc, le soleil réchauffe, la lune provoque les marées, Saturne refroidit, Mars réchauffe et ainsi de suite. Mais le fait qu'ils reconnaissent la théorie de l'influence céleste ne veut pas dire qu'ils ne critiquent pas les pronostics astrologiques. Ça ne veut pas dire que les pronostics astrologiques sont fiables. Pourquoi ? Je dirais qu'il y a deux arguments, deux raisonnements qui reviennent tout le temps dans les textes médiévaux. Donc, premièrement, parce que les corps célestes sont les causes lointaines. Il y a aussi les causes proches des événements. Donc là, c'est l'influence céleste, une cause lointaine. Les causes proches, par exemple, les causes naturelles, c'est l'action des éléments dont sont faits tous les corps terrestres. Et l'effet de l'influence céleste peut être changé, altéré ou complètement annulé par l'intervention de causes proches. Et comme un astrologue ne connaît pas toutes les causes proches, ne connaît pas leur concours, il ne peut pas prédire ce que devient l'effet de l'influence céleste ici-bas. Deuxièmement, il est complètement irréfutable pour les auteurs médiévaux que l'âme humaine est libre de l'influence céleste, elle est exempte de l'influence céleste. Les hommes sont libres d'agir comme ils veulent, ils possèdent le libre arbitre. Leur âme est indépendante des astres. En revanche, leur corps est soumis à l'influence céleste, mais, disent les théologiens médiévaux, puisque l'homme est doté du libre arbitre, il peut toujours échapper à l'influence céleste. Les corps célestes provoquent certains changements dans le corps humain. Ils peuvent y réveiller des passions corporelles, comme le désir ou la colère. L'homme peut agir sous l'influence céleste, mais comme il a le libre arbitre, il n'est jamais contraint. Il est seulement incliné à faire tel ou tel choix. Et si l'homme est suffisamment vertueux, il peut toujours agir librement. Donc voilà, ce sont les objections d'usage, d'après Eugénie Ogaran. Maintenant, Marcel Fessin, selon lui, adopte une autre stratégie. Donc en effet, un astrologue pourrait dire à cet argument qui loue le libre arbitre humain que tous les gens possèdent le libre arbitre, mais peu sont ceux qui s'en servent vraiment. La majorité vit un peu comme les animaux, se laisse guider par l'influence céleste. Et donc, dans la plupart des cas, puisqu'un astrologue tombe peu souvent sur les gens vertueux, les pronostics astrologiques sont quand même fiables. Donc, face à cet contre-argument, il faut proposer une autre critique. Et alors, selon Eugénie Ogaran, Fessin a proposé une autre méthode. Il critique les techniques, les règles de l'astrologie. Son but consiste à montrer l'absurdité des techniques des astrologues, des règles dont se servent les astrologues pour établir leurs horoscopes. Donc, dans cette citation, il y a déjà quelques techniques qui sont évoquées. Vous voyez les aspects qui sont les angles entre deux planètes différentes, les maisons planétaires, les divisions du ciel, les exaltations, un des types d'aspects, et ainsi de suite. Donc, je vais citer un seul exemple, un extrait où Fessin critique la correspondance qui existe selon les astrologues, entre les parties différentes du corps humain et le corps céleste. Donc voilà un extrait de la disputatio. Alcabicius, un astrologue arabe du 9e siècle, traduit en latin au 12e siècle, Alcabicius dit qu'en se trouvant dans le signe du bélier, le soleil agit sur le cuisse, dans le signe du taureau, le soleil agit sur le genou et Vénus sur la tête. Dans le signe des Gémeaux, Jupiter agit sur les parties honteuses, le soleil sur les jambes, Vénus sur le cou. Dans le signe du Verseau, le soleil agit sur les parties sexuelles, dans le signe des Poissons, sur le cuisse. Mais qu'y a-t-il de plus absurde qu'associer le Soleil, qui est le plus éminent de toutes les étoiles, aux parties anteuses et aux genoux? Donc, l'argument est très simple. Selon les astrologues eux-mêmes, le Soleil est la meilleure planète, la plus digne parmi les corps célestes. Donc, il serait logique d'attribuer à l'influence solaire les changements qui se déroulent dans les parties les plus nobles du corps humain. Le cœur, la tête, le cerveau. Et les astrologues font exactement le contraire. Ils attribuent à l'influence solaire les changements qui se déroulent dans les génitaux et aux genoux et aux cuisses. Donc il n'y a absolument aucune logique. Et selon Eugenio Garin, Fessin procède de la même façon avec d'autres règles astrologiques. Moi aussi, j'insisterai sur le fait qu'ici, dans cet extrait, il y a un astrologue concret qui est critiqué, Alcabisius. Ce ne sont pas les reproches aux astrologues dans sa totalité, aux astrologues abstraits, c'est un auteur précis. Ce passage témoigne d'une bonne connaissance des textes astrologiques. Il y a une règle précise qui est citée. Et dans la disputation, il y a bien d'autres astrologues qui sont cités, donc Alcabisius, Al-Bumazar, un autre grand astrologue arabe traduit au XIIe siècle, Messala, Zahel, Omar, Ptolémée, l'astrologue grec, peut-être quelques autres. C'est toujours très précis. Alors maintenant, nous arrivons à la question principale de l'exposé. Marcel Fessin est-il vraiment un novateur? Et la disputation représente-t-elle vraiment un tournant dans la polémique anti-astrologique? Et alors, non, la réponse est négative. Non, ce n'est pas le cas. Et pourquoi? Parce qu'il se trouve, comme j'ai réussi à démontrer, que Marcel Fessin s'est largement servi d'une source médiévale, sans jamais la mentionner. Il s'agit d'un traité du XIIIe siècle, rédigé en 1265, un traité qui s'intitule « Summa d'Astris », la somme des astres, rédigé par un frère dominicain, Gérard de Feltre. Et il s'agit d'un emprunt massif. 42% du texte de Fessin, c'est en effet la Summa d'Astris, soit cité mot à mot, enfin, cité, reproduit mot à mot, parce qu'il ne le cite jamais, soit paraphrasé. Et tous les raisonnements novateurs de Fessin, y compris l'extrait que je viens de citer, c'est la Summa d'Astris de Gérard de Feltre. Donc je présente rapidement ce traité et son auteur. Donc, Gérard de Feltre nous reste presque inconnu. Nous savons seulement, grâce à l'introduction à la Summa d'Astris, que c'est un frère dominicain qui a écrit son traité en 1265. Il est dédié au maître général de son ordre dominicain, Jean de Verseille. La Summa d'Astris se compose de trois parties. La première partie parle de l'astronomie. La deuxième parle de l'astrologie, mais ce n'est pas encore la critique. C'est juste l'exposition des doctrines, des techniques astrologiques selon les différents textes des astrologues grecs et arabes. Et finalement, la troisième partie, celle qui nous intéresse, et celle qui a intéressé Marcel Fessin, c'est la critique des croyances astrologiques. Cette troisième partie se compose à son tour de quatre rubriques. Et chaque rubrique est subdivisée. Il y a plusieurs distinctions dans chaque rubrique. Et après, dans une distinction, on trouve 2, 3, jusqu'à 5 chapitres. Donc, en ce qui concerne les rubriques, la première rubrique est plutôt traditionnelle. Gérard de Feltre présente les arguments, pour ainsi dire, théologique, on peut dire philosophique. Il cite quelques extraits bibliques, il défend le libre arbitre, il parle de la providence divine qui est plus forte que l'influence céleste. Donc c'est la partie assez classique. Mais après, dans les deux rubriques qui suivent, on voit que la stratégie change. Et dans les deux rubriques suivantes, la méthode consiste à mettre en évidence l'absurdité et l'absence de fondement rationnel dans les thèses des astrologues. Donc, dans la deuxième rubrique, sont critiquées les techniques astrologiques précises, les paramètres qui sont nécessaires pour établir un horoscope, donc les maisons, les aspects, les domiciles planétaires, c'est-à-dire les signes zodiacaux dans lesquels une planète acquiert la force maximale, ainsi de suite. Dans la troisième rubrique, Gérard de Feltre se moque des différents types des horoscopes. Donc, les nativitates, ce sont les horoscopes établis selon une date de naissance. Les élections, ce sont le choix d'un jour favorable seulement selon la position de corps céleste pour une activité, pour un voyage par exemple ou pour se marier. Les interrogations, c'est les réponses aux questions précises selon la position de corps céleste, des questions de sorte comment et où retrouver un objet perdu. Et finalement, elle critique aussi les pronostics qui concernent, comme elle dit, les accidents de l'air. Donc les pronostics sur les accidents de l'air, aujourd'hui on aurait dit ce sont les prévisions météorologiques. Et donc finalement, il y a quatrième rubrique qui parle de l'astrologie naturelle. C'est une astrologie licite qui est d'une portée assez restreinte chez Gérard de Feltre. Donc, il se trouve que quand les chercheurs louaient l'argumentation astrologique de Fessan, il parlait en fait de l'argumentation de Gérard de Feltre. Et en fait, la Summa de Astres est une œuvre pour ainsi dire mal aimée par les historiens. C'est un texte qui a été découvert dans les années 1930 par Lynn Thorndike, un grand historien des sciences et de la magie. Mais Lynn Thorndike a écrit dans l'un de ses articles que c'est un texte qu'il ne faut pas surévaluer. Et je pense qu'en partie à cause de cette estimation, la Summa de Astres est restée très peu étudiée. Et il n'y a pas d'édition. Il y a 6 manuscrits aujourd'hui qui sont connus, sont partiels. Et pourtant, il me semble que c'est une œuvre très importante. Premièrement, c'est la première critique des astrologues depuis l'Antiquité chrétienne. Il y en a des textes qui les critiquent avant, mais la Summa de Astres est spécialement rédigée avec un seul but, c'est réfuter les croyances astrologiques. Et deuxièmement, il me semble que l'argumentation dans la Summa de Astres est très originale, donc un examen détaillé, très subtil, comme dit Eugénie Ogarin sur Fessin. Bon, dans le temps qui reste, on va voir comment Marcel Fessin procède avec le texte emprunté. Donc là, voilà, c'est la structure de la disputation de Marcel Fessin compte tenu de l'utilisation de la Summa de Astres. On voit qu'il y a 2 grandes empreintes au sein du traité de Fessan. À partir de folio 31, il commence à utiliser bel et bien la Summa de Astres. Puis, en ce qui concerne le texte original de Marcel Fessan, il est fondé en grande partie sur la théologie platonique, la théologie platonicienne qui est l'œuvre antérieure. Et dans ces extraits, on voit, il y en a 2, folio 3, folio 13, folio 16, folio 29. Il ne s'agit pas vraiment de l'astrologie au sens strict. Il s'agit plutôt du libre arbitre et de la providence divine qui sont indépendantes, mais non seulement par rapport au corps céleste, par rapport à toute une série de causes. Ce sont les réflexions plutôt sur le libre arbitre en général que sur le libre arbitre face à l'influence céleste. Après, on voit un texte original de Fessan sur le folio 51-54. C'est un texte qui porte sur l'astrologie. Fessan explique qu'il est impossible de faire un pronostic assez précis, assez fiable. Et il parle aussi de l'infériorité de l'astrologie par rapport aux autres sciences de la pronostic, surtout par rapport à la médecine, qui fait aussi le pronostic sur la santé, les maladies, les guérisons, la mort. Mais c'est un texte, comme vous pouvez voir, relativement court. Après, il y a une page vide, et après, Fessan reprend l'analyse, la paraphrase de la Summa de Astres de Gérard de Feltre. Et finalement, on voit de nouveau un texte journal de Marcel Fessan où il parle des contingences des événements prédits par les astrologues et de la volonté humaine libre de l'influence céleste. Donc, Fessan n'a quand même pas purement copié la Summa de Astres de Gérard de Feltre. Il a procédé, il a modifié le texte de la Summa de Astres avec des omissions, des paraphrases et des ajouts. Donc on va voir tout de suite. Donc, premièrement, Fessan a fait un tri. Donc, là, je ne pense pas qu'on va très bien, mais Donc c'est un tableau comparatif de la disputation de Sumo d'Astris de Gérard de Feltre. Donc on voit premièrement que Fissan a très bien respecté l'ordre de distinction tel qu'il est dans la Sumo d'Astris. D'abord, il paraphrase distinction 1, puis distinction 2, distinction 3. C'est jamais d'abord distinction 3, puis distinction 2. Il a quand même omis quelques distinctions. On voit la distinction 6 n'est pas paraphrasée par Fissan. Je pense que parfois c'est facile à expliquer parce que dans la distinction 6, notamment, Gérard de Feltre explique que l'influence céleste peut être altérée non seulement par la providence divine, mais aussi par d'autres causes naturelles et par les actes du libre arbitre. Mais il parle du même sujet, au fait, dans la distinction 4 et distinction 2. Donc je pense que tout simplement, Fissan n'a pas voulu répéter la même idée trois fois. Il n'a pas jugé utile de paraphraser encore une fois la même chose. Et les distinctions ne sont pas reprises entièrement non plus. Si Gérard de Feltre lance, disons, 10 arguments, Fissan en copie 3 ou 4. Aussi, à cause des omissions, il nous semble parfois, il me semble que le texte de Fissan est plus libéral, pour ainsi dire, que le texte de Gérard de Feltre. Donc déjà, les chercheurs disent que le texte de Fissan est très féroce, très sévère à l'égard des astrologues, mais ça, ils n'ont pas vu certains passages de Summa de Astris. Donc voilà, par exemple, un bon exemple de style de Gérard de Feltre, qui traite les astrologues de tous les noms. Dans cette distinction, je parlerai de la réprobation tant de ceux qui donnèrent des jugements astrologiques que de ces jugements eux-mêmes, en prouvant qu'ils étaient des blasphémateurs de notre foi et des infidèles, ainsi que des menteurs, et qu'ils se contredisaient même dans ces choses où consiste la force des jugements. Il convient aussi de démontrer que ce sont des idiots et des ignorants. Donc, les passages de cette sorte sont relativement nombreux chez Gérard de Feltre, donc chez Fissan, ils sont absents quand même. Au plus souvent, Fissan paraphrase la Summa de Astris. Mais il y a quand même un très long passage qui a été repris verbatim, mot à mot. C'est toute une distinction 23 qui s'intitule chez Gérard de Feltre « De la réprobation des dires de Ptolémée sur les mœurs des peuples différents ». Ptolémée, l'astrologue grec, prouve dans son traité astrologique que les mœurs des peuples différents dépendent des corps célestes qui dominent les régions où habitent ces peuples. Et Gérard de Feltre refute cette croyance. Distinction 23, Fissan a repris tout mot à mot. Ici, je plaçais le texte latin. Bon, je traduis quand même, chapitre 2. Mais l'un de ceux qui ont étudié la discipline astrologique attentivement dira que l'horoscope se divise en cette partie qu'ils appellent climat. Chapitre 3, j'ajoute à cela quelque chose qui peut satisfaire même ceux qui sont très incrédules. Fissan a copié la distinction 23 à l'intégrale, y compris l'intitulé chapitre 2, chapitre 3. Du coup, c'est très déconcertant, voir dans son traité, à la page 60, soudain, l'intitulé chapitre 2, chapitre 3. Comment s'interroger, et alors chapitre 1, ça a pris 60 pages, pourquoi? Et au fait, là, maintenant, en sachant qu'il a copié mot à mot la distinction de la Summa d'Astris, on comprend que ce ne sont pas les chapitres qu'il a traduits les mêmes, c'est juste la copie d'un autre traité. Mais pour le reste, dans d'autres cas, il paraphrase. Et il s'agit, dans la plupart des cas, d'une paraphrase assez fidèle. Il peut le paraphraser très rapidement parfois, mais il ne déforme pas ses idées. En général, il a bien compris, il ne le critique pas, il ne le déforme pas. Je vais te montrer quelques exemples, à la fois pour montrer que la paraphrase est fidèle et aussi pour montrer quelques arguments typiques de Gérard de Feltre. Donc voilà, par exemple, toujours sur les mœurs des peuples différents. Selon les astrologues, un signe zodiacal domine sur telle ou telle région. Gérard de Feltre explique qu'il ne comprend pas pourquoi à tel signe on attribue le pouvoir sur une région ou une autre. À partir de cela, elle recherchait d'abord pourquoi un signe exerce une influence plus sur une province que sur une autre. La balance possède le pays de Romane et la Haute-Égypte jusqu'aux frontières avec l'Éthiopie. Mais quel est le point commun entre le pays de Romane et l'Égypte compte tenu de la grande distance entre eux, en particulier dans la partie proche de l'Éthiopie? Donc on va chercher Fessan, c'est quasiment la même chose, il y a quelques termes qui sont les autres, ce n'est pas le point commun, convenso, c'est le lien, conjunctio. Quel est le lien entre les Romains et les Égyptiens qui se trouvent s'éloignant les uns des autres, surtout dans la partie proche de l'Éthiopie? Donc, l'argument continue. Le verso possède tous les lieux où l'on vend du vin, contre beaucoup de taverniers se déplacent vers des lieux où il n'est pas d'usage de vendre du vin. Par conséquent, le verso acquiert la signification sur ces lieux. Donc la volonté et l'effort de ces hommes font que le verso signifie quelque chose qu'il ne semblait pas signifier auparavant, et non le contraire. Ce n'est pas le verso qui fait les gens vendre du vin ou ne pas vendre du vin, c'est les gens qui, par son activité, font que le verso signifie maintenant les vendages, la consommation du vin. La même chose chez Marcel Fessan, le verso domine le lieu où l'on vend du vin. Si les gens qui jusqu'à ce moment vendaient du vin dans ce lieu, en se déplaçant, vendent du vin à un autre lieu où il n'était pas d'usage d'en vendre, le verso abandonne sa signification sur le lieu précédent et obtient la signification sur le lieu suivant. Bon, je ne cite pas en entier. Si cela est nécessaire, il y a le texte latin et à la fin on peut comparer les termes différents qu'emploie Marcy Fulsan et qu'emploie Gérard de Feltre. Donc, un autre argument, il s'agit de la division du zodiaque en 12 signes. Donc, il semblerait qu'il s'agit d'un postulat irréfutable. Tout le monde sait qu'il y a 12 signes dans le zodiaque. Et Gérard de Feltre demande, mais pourquoi 12? Pourquoi pas 20? Pourquoi pas 15? Pourquoi pas 10? Et il y a une explication chez l'astrologue arabe, Al-Bumazar, un astrologue très connu du Xe siècle, traduit en latin au XIIe siècle. Gérard de Feltre cite cette explication et il la critique. Donc voilà. Premièrement, il faut considérer les raisons pour lesquelles ont été institués 12 signes du zodiaque. Al-Bumazar dit, dans la troisième différence de la distinction 15 du deuxième traité, la cause pour laquelle il y a 12 signes consiste en leur signification des quatre éléments et de leur triple état, c'est-à-dire le début, le milieu et la fin. Si on multiplie 3 par 4, cela donne le nombre 12. Contre, de la même façon, je peux dire qu'il y a 4 éléments et 3 forces de l'âme, c'est-à-dire la végétative, la sensitive et la rationnelle. 4 qualités élémentaires et 5 sens des animaux sur la totalité desquels, affirme-t-il, les étoiles ont une signification. Et si tu ajoutes 3 et 4, tu obtiendras 7. Si tu ajoutes 4 et 5, tu obtiendras 9. Si tu multiplies 3 par 5, 15. Si tu multiplies 4 par 5, 20. Ainsi, la raison qu'il indique est futile. Donc, les astrologues, Al-Bumazar précisément, dit qu'il y a 12 signes de zodiaque parce que le corps céleste, donc les étoiles agissent sur 4 éléments, la terre, le feu, l'air et l'eau. Et chacun de ces 4 éléments a triple état, 3 états, le début, le milieu et la fin. Donc on multiplie 3 par 4, ça donne 12. Gérard de Feltre dit, mais c'est absurde, parce que d'après les astrologues eux-mêmes, les corps célestes agissent non seulement sur les éléments, ils agissent sur 5 sens, par exemple, sur le goût, sur le toucher, et ainsi de suite, sur 3 parties de l'âme, la végétative, la sensitive, la rationnelle. On peut faire toutes sortes de calculs et arriver à 9 signes de zodiaque, 12 signes de zodiaque, 15 signes de zodiaque, 20 signes de zodiaque, et ainsi de suite. Chez Marcel Fessan, contre la division du ciel en 12 signes, Al-Bumazar dit dans le deuxième traité de jugement, la cause pour laquelle il y a 12 signes consiste en ce que le signe signifie 4 éléments et leurs 3 conditions, c'est-à-dire le début, le milieu et la fin. Bon, là, on voit un petit changement. Gérard de Feltre un peu plus précis. Ça réfère à deuxième traité, troisième distinction, quinzième différence. Monde, il indique vraiment un lieu dans le traité d'Al-Bumazar très précisément. Fessan a laissé seulement le deuxième traité du livre des jugements d'Al-Bumazar. Mais pour le reste, c'est le même calcul. Donc, 3 forces de l'âme, 4 éléments, 5 sens des animaux, donc soit 9 signes de zodiaque, soit 15, soit 20. Leur raison est vaine. C'est quand même la paraphrase, mais la paraphrase très fidèle. Donc, enfin, je vais citer Le dernier argument de cette série, ici, il s'agit de la réfutation de la règle des maisons. Ce n'est pas peut-être l'exemple le plus typique, mais, parce que Fissan a introduit quelques changements cette fois-ci, mais l'idée générale est restée la même. Donc, Gérard de Feltre dit, Zael, un astrologue arabe du 9e siècle, a dit que l'ascendant signifie la vie. Donc l'ascendant, c'est la première maison. Dans l'horoscope, la voûte céleste est divisée en 12 tranches, en 12 maisons. Et chaque maison a une signification précise. La première maison de l'horoscope signifie la vie, la naissance. La première maison de l'horoscope est située dans la partie orientale du ciel. C'est la partie attenante à l'horizon oriental. Et quand un signe zodiacal apparaît dans la première maison, quand une planète entre dans la première maison, ça veut dire que la planète apparaît à l'horizon. Ça veut dire qu'elle part des ténèbres et elle arrive à la lumière, elle devient visible pour l'observateur. Donc voilà ce que dit Gérard de Feltre. Zael dit que l'ascendant signifie la vie. Ce signe monte de la partie inférieure de la Terre vers sa partie supérieure ou des ténèbres vers la lumière. Et de la même façon, un nouveau-né va des ténèbres du ventre maternel vers la lumière de ce siècle, etc. Voilà pourquoi la première maison signifie la vie, parce qu'il y a une ressemblance. Comme une planète apparaît à la lumière, un nouveau-né apparaît à la lumière aussi. Mais indiquer une similitude, c'est une chose. Et indiquer une cause en est une autre. Toute similitude n'est pas la cause d'une chose. Une voix a deux pieds et l'homme aussi en a deux. Cela veut donc dire que la voix signifie l'homme en ayant une influence sur lui. Donc, heureusement, pas par l'absurde. La même chose chez Marcel Fessan, seulement, de la même manière, c'est comme si nous faisions ce raisonnement. Le cheval a quatre pieds et l'âne aussi en a quatre. Donc, le cheval désigne l'âne de sorte qu'il exerce quelques actions sur lui. Donc, on ne sait pas pourquoi, mais là, elle a remplacé le roi et l'homme par le cheval et l'âne. Et ensuite, la même chose donc, chez Gérard de Feltre. Du fait que l'âne s'accorde avec l'homme dans l'animalité, parce que tous les deux sont des animaux, il ne s'ensuit pas que l'âne signifie l'homme en ayant une influence sur lui. De la même façon, la conclusion de Zael, citée ci-dessus, ne découle pas de la similitude. En outre, selon le même raisonnement, l'ascendant signifierait la sortie de l'homme des ténèbres de la prison, où il était auparavant enfermé et attaché. Ce avec quoi les astrologues ne sont pas d'accord, puisque selon eux, c'est la quatrième maison qui signifie la prison. Chez Marcel Fessan, ce n'est plus l'homme et l'âne, c'est le lion qui s'accorde avec le cerf, dans ce que tous les deux sont des animaux, mais il ne s'ensuit pas que le lion signifie le cerf ou qu'il exerce quelque action sur lui. De la même façon, la conclusion de Zael, citée ci-dessus, ne découle pas de la similitude de l'ascendant avec le nouveau-né. Pour le reste, l'argument est le même. Il y a aussi la similitude entre l'apparition d'une planète, d'un signe dans la première maison et la naissance d'un enfant, mais aussi il y a la similitude avec la sortie de quelqu'un d'une prison ténébreuse, et pourtant, selon les astrologues, c'est la quatrième maison qui signifie la prison et la sortie de la prison, c'est pas la première maison. Donc, voilà quelques exemples de la paraphrase. Ensuite, là c'est en latin. Voilà, il y a aussi quelques extraits où Fissan a fait quand même quelques ajouts. Un texte de Gérard de Feltre. Donc parfois la paraphrase est accompagnée par des ajouts mais relativement courts et leur récolte n'est pas très riche. Donc Fissan peut ajouter au texte de Gérard de Feltre quelques citations. Il cite Aristote, mais Gérard de Feltre connaît Aristote très bien lui aussi. Mais aussi Fissan cite Platon, Jamblique, les textes que Gérard de Feltre ne pourra pas connaître peut-être. Parfois, il explique les arguments de Gérard de Feltre. Donc, le frère dominicain se sert des termes arabes, les points dans l'horoscope « ileg » à la Cocoden. Et Fissan l'a traduit en latin, dit « ileg » significateur de la vie, significator vitae, al cocaden, le donneur des années, datur anorum. Et parfois, mais rarement, quand il trouve l'argument de Gérard de Feltre pas clair, pas assez explicite, il peut rajouter deux, trois phrases qui rendent l'argument un peu plus clair. Mais ce sont les ajouts qui ne changent pas l'idée générale. Et finalement, dans les cas assez rares, Fissan propose ses propres raisonnements à côté des raisonnements de Gérard de Feltre, mais il faut dire qu'il suit toujours le schéma que l'auteur médiéval a proposé avant lui. Donc voilà, ici il y a tout un dialogue au sujet des domiciles planétaires. Donc les domiciles planétaires sont les signes zodiacaux dans lesquels la planète acquiert sa force maximale. Chaque planète a deux domiciles, sauf le Soleil et la Lune qui ont un seul, chacun. Or, selon Gérard de Feltre, c'est une règle qui ne marche pas parce que tous les signes zodiacaux et toutes les planètes ont des qualités. Donc, il y a quatre qualités, chaleur, le froid, la sécheresse et l'humidité. Chaque planète a deux qualités, chaque signe zodiacal a deux qualités. Et selon ces qualités, on distingue les signes zodiacaux et les planètes en quatre groupes selon les éléments. Le feu, la terre et l'air. Donc si la planète, par exemple, est chaude et sèche, c'est la planète du feu parce que le feu est chaud et sec. Si un signe zodiacal est froid et humide, c'est un signe d'eau parce que l'eau est froide et humide. Et ici, Gérard de Feltre voit un problème. Donc voilà ce qu'il dit. Les domiciles de Mars sont le bélier et le scorpion, etc. Mais on objecte à cela. Mars est chaud et sec, le scorpion est froid et humide. Donc il est en désaccord avec lui dans ses propriétés. Or, toute chose est plutôt affaiblie que favorisée par son contraire. Et Marcel Fissan voit exactement le même problème. Le scorpion, signe 2, ne peut pas être le domicile de Mars, planète de feu, parce que dans le domicile, la planète est censée augmenter sa force, mais il ne peut pas. Le scorpion est hostile à Mars parce qu'il a d'autres qualités que Mars. Et Fissan fait un ajout, ici en italique, il continue le même raisonnement, c'est la même logique. Peut-être tous les deux, la planète et le signe, sont-ils malveillants? Non, aucun d'eux ne l'est. Et après, Gérard de Feltre dit dans son traité, démontre de la même façon ce qui concerne les autres domiciles. Et Fissan a suivi ce conseil, il a pris l'exemple de Saturne. Il continue, si Saturne est une planète de Terre, de quelle manière a-t-il le domicile dans le Verseau signe d'air? Donc voilà, cet argument n'est absent chez Gérard de Feltre, mais c'est absolument le même schéma. Donc Fissan n'a vraiment rien inventé ici. Surtout, il est important de remarquer que dans ses ajouts, il ne critique jamais Gérard de Feltre. Il rend ses citations plus, ses arguments plus explicites. Il les illustre par des citations, mais il ne les déforme pas, il ne les critique pas. Et finalement, l'analyse comparative de la disputatio de la Summa de Astres a permis d'identifier deux personnages énigmatiques qui sont cités dans les disputatio de Marcel Fissan. Donc le premier est un certain Jean. Jean est cité dans cette partie de la disputatio qui représente une empreinte verbatim, mot à mot, de la Summa de Astres de Gérard de Feltre. Donc c'est toujours cette distinction 23 sur les mœurs des peuples différents, dépendant du corps céleste. Voilà ce que dit Gérard de Feltre. Le fait que le loi varie selon la diversité de Provence ainsi que les mœurs, tant bonnes que mauvaises, qui sont relatées selon les dires de Ptolémée dans la distinction 10 de la deuxième partie, ne proviennent pas des positions des étoiles ou d'une constellation identique de naissance, est prouvé par ce qui est dit dans le livre de Clément. Il s'agit de Clément d'Alexandrie. Donc Gérard de Feltre se réfère ici à lui-même. D'abord, dans la deuxième partie, notamment dans la distinction 10, il a exposé la doctrine de Ptolémée, il a cité mot à mot un passage où Ptolémée explique quelles sont les mœurs des peuples différents et comment ils dépendent des constellations. Et donc, maintenant, dans la distinction 23 de la troisième partie, il refuse de dire de Ptolémée, mais si quelqu'un ne se souvient plus ce que Ptolémée a dit, il va le chercher dans la distinction 10 de la deuxième partie. Chez Marcel Fissan, c'est mot à mot, seulement il y a un certain Jean qui apparaît, donc les mœurs, les bonnes et les mauvaises, desquelles parle Jean de manière développée dans la deuxième partie selon les dires de Ptolémée. Donc ici, il nous faut voir le texte latin. De quibus in seconda parte distinctione decima exaratum est, de quibus in seconda parte dicito eanes exaratim. Donc la différence, distinctione decima et dicito eanes, distinction 10 et Jean dit. Qu'est-ce que s'est passé? Qui est ce Jean? Il y avait quelques versions, on a supposé que ça peut être Джон Дешенден, un astrologue anglais. Mais en fait, ce n'est pas ça. Dans les deux manuscrits de la Summa de Astres que j'ai consultés, et aussi dans le texte de Marcel Fessin, là, c'est le manuscrit de la Summa de Astres, mais chez Marcel Fessin, c'est la même abréviation. Vous voyez ici dans le cadre rouge D.10. Ça veut dire distinction et décima. C'est comme chez Gérard de Feltre, distinction 10. L'éditeur de la disputatio, Hans Baron, ne savait pas comment déchiffrer et il a pensé que D, point, ça peut être 10 kits, 10. Et après 10, il n'a pas compris que ce sont les chiffres. Il a pensé que ce sont les lettres, IO. Et 10 kits, Johannes, Jean dit. Et ainsi, il y a un Jean qui est apparu, un Jean qui n'a jamais existé. Il y a un autre personnage qui s'appelle Albius. Albius est un astrologue. Marcel Fessin dit qu'Albius critique Ptolémée. Donc voilà, on passe au texte français. Albius a aussi reproché à Ptolémée d'avoir appelé la lune humide, parce qu'en étant proche de la Terre, elle en reçoit des vapeurs. Albius démontre que cela est faux, tant parce que les vapeurs ne montent pas si haut, que parce que la nature éternelle de la lune ne reçoit pas de mélange dont elle s'imprégnait par le monde inférieur. Donc les corps célestes sont inaltérables. Les corps célestes peuvent agir sur le corps terrestre, mais eux-mêmes, ils ne subissent jamais d'influence. Ils sont incorruptibles, leur nature est inaltérable. La lune ne peut pas devenir humide à cause des vapeurs. Donc, qui est Albius? Si on compare ce passage avec la Summa de Astres de Gérard de Feltre, on comprend que chez Gérard de Feltre, il s'agit d'Albumazar. Albius n'est personne autre qu'Albumazar, le célèbre astrologue arabe, l'un des plus célèbres pour les auteurs médiévaux. De cette manière, Albumazar part contre Ptolémée dans la première distinction du quatrième livre. Albumazar ajoute, et Ptolémée dit que la nature de la Lune est humide à cause de la proximité de son orbe par rapport à la Terre, à cause de la réception des vapeurs qui se lèvent de la Terre vers la Lune. Donc, le texte latin, là, en traduction, j'ai abrégé l'argument, il est beaucoup plus long. Donc, Albumazar, quattro livres, differenza prima. Comment Albumazar est devenu Albius? S'agit-il de la faute de l'éditeur? Non, il ne s'agit pas de la faute de l'éditeur, il s'agit de la faute de Marcel Fessin, lui-même. Dans les manuscrits de la Summa de Astres, le nom d'Albumazar est abrégé comme Albu. Et c'est non seulement dans les manuscrits de la Summa de Astres, c'est en général, c'est souvent Albumazar, c'est Albu. Donc là, il a pensé que ce n'est pas Albu, quarto livre, Albumazar dans le livre 4, il a pensé que c'est Albii. Il a eu U comme deux barres, comme deux I, Albii, quarto livre, dans le livre 4 d'Albius. Albii, ça peut être le génitif du nom Albius, et ainsi Albius est apparu dans l'œuvre de Marcel Fessin. Et ce qui est surtout remarquable, ce qu'il ne s'est pas rendu compte, et dans ses œuvres plus tardives, notamment dans son commentaire sur les Énéades de Plotin, Albius apparaît de nouveau. Et ce qui est surtout étonnant, à côté d'Albumazar, c'est à juste titre qu'Albumazar et Albius reprouvent partout Ptolémée, parce qu'il a souvent attribué aux étoiles les qualités élémentaires et contraires entre elles. Il prouve que dans le ciel, il n'y a pas de telle nature. Donc, c'est exactement le même argument, sauf que maintenant, il s'est rendu compte qu'il y a la même critique chez Albumazar, mais il n'a pas oublié qu'il a lu quelque part qu'il y a un Albius, donc il a ajouté Albius et Albumazar. Donc voilà, deux fois en latin. Bon, revenons maintenant au problème de l'incohérence dans l'œuvre astrologique de Fessin. Donc, en partie, la découverte de la source médiévale caché résout notre problème, mais seulement en partie. Il est très tentant de dire que Fessin lui-même n'est pas critique à l'égard de l'astrologie, c'est Gérard de Feltre qu'il est, mais ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'on voit que c'est quand même un travail avec la Summa de Astres. Il a paraphrasé, il a fait des émissions, il a remplacé l'oie et l'homme par le lion et le cerf. Ce n'est pas seulement une prise de notes, c'est aussi une certaine prise de position. Ne le critique pas, il est d'accord avec lui. Il rédige son traité. Et là, il faut reconnaître que en partie, il me semble qu'une part d'énigme risque de résister à jamais à la recherche historique, puisque Fessin n'a jamais publié la Disputatio. On ne sait pas quelle pourrait être la forme définitive de ce traité. Aurait-il ajouté quelque chose à ce texte? Aurait-il réécrit les empreintes de la Summa de Astres? Donc, personnellement, j'ai du mal à croire que le texte pourrait paraître tel quel, parce qu'il y a beaucoup de choses encore à corriger. Il y a le prologue qui est répété deux fois. Ce n'est pas encore un manuscrit qui est tout prêt à la publication. Mais qu'est-ce qu'il pourrait changer, ça on ne sait pas. Bon, en tout cas, la découverte de la source cachée de la Disputatio de Marcel Fessin nous ouvre de nouvelles pistes. On peut maintenant révéler la Disputatio contre Judicium Astrologorum. Et ce qui est plus important, apprécier la Summa de Astres de Gérard de Feltre comme une œuvre significative, vraiment originale, dans la polémique contre les astrologues. Merci.
Je te remercie beaucoup, Maria. J'espère que tu as honte, quand même, de ta découverte, parce que là, tu remets quand même en cause une thèse fondamentale de la science médiévale, enfin, surtout renaissante. Donc, j'espère que tu as honte. D'ailleurs, je suggère à quelqu'un qui en aurait très envie, je ne pense pas que ça existe encore, de faire une thèse sur Albius, voilà, ou sur Jean. Il y a des gens qui se sont posé la question de savoir qui était Albius et qui ont fait des hypothèses.
Bah, Albius, non, mais Jeanne, il y a Ornella Pompeo-Forakovi qui a proposé que c'est John of Ashenden, John de Chandel, un astrologue anglais. Mais c'est tout à fait justifiable. Disons, je ne jette pas de pierre parce que ce n'était pas évident de deviner même que c'est distinction d'Etsema, parce qu'il n'y a aucune raison qu'ils disent soudain, au milieu de traité, distinction 10, quelle distinction 10 ouais. Donc elle a déchiffré comme on l'a pu, c'est une bonne hypothèse, dit qu'il était Anne, sauf que...
Donc c'était ma question, parce que j'ai dû sauter, avoir un moment d'inattention. Qui a fait la lecture fautive, Jean?
Jean, c'est l'éditeur...
moderne, d'aujourd'hui.
Hans Baron, oui.
D'accord, de maintenant.
Du XXe siècle. Je ne me souviens plus quand ils l'ont édité dans les années 40 ou 50, mais voilà, ça c'est l'erreur moderne. Albius, c'est l'erreur de Fessin.
Du coup, moi, tu me donnes des sueurs froides, hein, parce que moi, je fais des éditions de textes et je me dis que si je me trompe, ça peut avoir des conséquences absolument infernales. Hein. Bon.
Merci beaucoup, bravo pour cette découverte. Donc, vous faites avancer la science. Pourquoi vous n'avez pas traduit Isaël par Ézéchiel, ou c'est moi qui surévalue? Enfin, c'est pas une citation biblique. Isaël, non?
Isaël, non, non, non.
C'est un astrologue.
C'est un astrologue, oui.
Ah, d'accord, d'accord.
9e siècle, je pense.
D'accord.
Zahle ibn Bisra.
Non, parce qu'on met les questions de l'agneau et du lion ensemble, non, c'est plus ou moins, c'est pas une citation biblique, non. Juste
est-ce que c'est l'agneau, c'est le cerf et le lion?
Ah, c'est le cerf et le lion, d'accord. Non, puisqu'il y a Ézéchiel, je me disais, non, mais effectivement, Zahel, Ézéchiel,
non,
mais, ça marche
pas. Non, mais je pense que quand même, il connaissait l'astrologue, c'était traduit Zahel. Depuis le 12e siècle, je pense qu'il a lu lui-même après.
Non, c'était juste...
Alors j'ai deux remarques, deux questions plutôt. La première c'est sur la paraphrase, parce que bon, je ne connais pas suffisamment le style de Fessin, mais enfin de ce que l'impression que j'ai, c'est que quand même ce style, c'est une paraphrase qui est quand même proche du texte. C'est pas une réécriture humanisante ou classicisante du texte. C'est une légère, sauf justement dans les passages qui sont réellement ajoutés où là on sent un style un peu plus humaniste. Et du coup, parce qu'on aurait pu se dire, il a voulu réécrire ce texte pour le rendre plus lisible pour lui, pour ses lecteurs, etc. Mais en fait, même pas, parce que c'est quand même assez...
C'est
quand même
lisible,
style scolastique, XIIIe siècle. Et donc ça n'a pas gêné les éditeurs. Enfin, ils n'ont pas remarqué qu'il y avait quand même un petit saut de style.
Non. Et ça se sent, parce qu'il y a à côté les passages de la théologie platonique qui sont vraiment écrits autrement. Et il y a ça. Après, j'ai cité aussi les exemples qui sont... Je me suis rendu compte, c'est quand même très, très proche du texte. Il y a d'autres passages où il paraphrase mieux, où il paraphrase plus. Le style devient un peu plus soutenu, mais quand même pas tellement. Il y a un sort de style, nettement, il y en a.
Et alors, je voudrais... Est-ce que tu pourrais revenir sur le plan du manuscrit, là, de...
Voilà.
En fait, il y a des choses que, en fait, je comprends pas très bien. C'est, là, il y a tout le manuscrit ou juste le début? C'est-à-dire que le manuscrit s'arrête
tout le manuscrit
au
de, voilà,
69
de,
là.
De 1 jusqu'à 69.
Et ça se présente comme un seul texte ou c'est deux? Est-ce que je comprends pas la théologia platonica là? C'est présenté comme un autre texte?
Non, ça se présente comme un seul texte. Seulement, il y a le vide. Puis ça reprend, mais là, les pages, les folios 16 à 29, c'est pas identique aux folios 3 à 13, ça continue. Là, en revanche, le prologue, c'est répété deux fois. Donc, ici, ça marque de nouveau un début, c'est étrange. Mais voilà, là ce sont deux textes. Théologie platonique, il a déjà rédigé en 74. Disputatio, c'est 77. Théologie platonique, il l'a publié plus tard.
D'accord.
Il l'a publié dans les années 80.
Il l'a déjà écrit avant.
Il a déjà écrit avant. Le texte existe déjà, mais il n'a pas encore publié non plus.
Mais ce prologue qui est le même là, c'est un prologue à quoi? À la Théologie platonica ou
non,
à,
c'est le prologue à la Disputatio.
Donc en fait, si je comprends bien, il a fait ce prologue à la Disputatio. Enfin, si on imagine qu'il l'a fait dans l'ordre, ce qui n'est pas certain, il faudrait voir les cahiers, l'organisation matérielle du manuscrit, mais ce qui, à mon avis, serait fondamental. Mais il a fait le prologue, s'il l'a fait dans l'ordre.
Ouais.
Ensuite, il a dit, tiens, je vais mettre ma théologie platonique que je n'ai pas publiée, ça sera parfait à cet endroit-là.
Oui, voilà.
Et puis, il s'est dit, ah non, en fait, ça ne va pas, puis de toute façon, mon texte, je vais le réécrire. Il laisse un trou pour faire un prologue, peut-être, à la théologie. Non, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut comprendre ce qu'il a voulu faire? Et du coup, on serait vraiment face à une hésitation sur qu'est-ce qu'il veut faire en fait. Est-ce qu'il veut vraiment faire une disputatio contre les astrologues ou un texte plus général sur
Le cosmos? Il a envoyé. Il semble qu'il voulait quand même faire une tête contre les astrologues parce qu'il a envoyé le prologue à son ami. Le nom m'échappe. Hippolyte quelque chose. Il a envoyé le prologue, il a dit « Bientôt, je vais t'envoyer mon traité en entier. J'ai presque fini, il reste que réécrire, il reste que recapier le brouillon au blanc. C'est le traité contre les astrologues. »
D'accord. Oui, donc,
Et voilà le prologue. Et le prologue, c'est celui-ci.
Ok. Bon, je pense qu'effectivement, regarder le manuscrit, comment il est fait, peut-être aiderait à comprendre.
Ouais.
Il est conservé où, ce manuscrit?
À Florence.
Enfin...
Merci beaucoup pour cette belle présentation. Ça fait plaisir de voir qu'un travail de doctorat arrive à des découvertes comme ça. J'étais perplexe, mais sûrement comme vous, sur les petits changements, notamment les changements des animaux. Et est-ce que, c'est une question sans doute idiote, mais est-ce qu'on peut penser que ce ne serait pas Ficin, mais une version un peu différente de Gérard de Feltre qui aurait circulé et Ficin ce serait du coup serait quand même dans de la copie mais sur une version que nous n'avons plus que si on a un changement c'est vrai que vous avez dû réfléchir et pas trouver la cause de l'échange entre l'âne le cheval et je sais plus c'est le lion et le cheval ou quelque chose comme ça ça peut paraître bizarre. Donc pourquoi ce changement et si c'est Ficin, est-ce qu'il y aurait une raison plus logique? Est-ce qu'il y en a beaucoup des changements comme ça et est-ce qu'il y a une cohérence
ou juste il y a un exemple qui a changé un peu, c'est quasiment l'exemple unique. On peut dire aussi ce passage sur la planète où Gérard de Feltre, il n'y a pas de Saturne chez lui, il y a Saturne, mais... Non, il me semble qu'il essaie de rédiger, il essaie de changer un tout petit peu quand même pour ne pas faire mot à mot le texte qui n'est pas à lui. Je ne sais pas si ça peut être l'autre version du traité de Gérard de Feltre. J'ai lu deux manuscrits sur six. Encore deux sont incomplets, il n'y a pas de partie 3, donc là ça apporte rien. Il reste encore deux à consulter. Mais après, les textes sont quand même un tout petit peu différents, les textes latins. Là. Il n'y a pas que le lion et le cerf, l'homme et va, il y a encore d'autres changements dans la construction de la phrase. Je pense que c'est quand même Fissane qui a changé, mais pourquoi ?
Dans l'exemple déjà de loi et l'homme.
Oui. Je voulais revenir sur l'exemple de loi et de l'homme. En fait, là, il s'agit de réfuter la thèse d'une similitude.
Oui. Or, la similitude, ce n'est pas une cause.
Voilà. Or, ce qui est frappant, c'est que quand même, il y a la similitude entre loi et l'homme, elle va pas de soi. Par contre, elle est quand même paraît plus frappante entre l'âne et le cheval.
Ah.
Tu vois, un âne et un cheval, c'est quand même plus proche qu'une loi et un homme.
Ouais. Mais pareil, après, c'est l'homme et l'âne.
Et l'autre, c'est quoi?
L'autre, c'est ça marche, oui. L'autre, c'est l'homme et l'âne, qui sont tous les deux des animaux. Ouais. Et chez Fissane, c'est le lion et le cerf. Ou quand même, le lion et le cerf sont plus proches que l'homme et l'âne.
Bah oui,
ah oui, mais peut-être, oui, pour rendre plus...
Plus fort, l'argument, en fait. Ouais. L'argument est plus fort.
Ouais. Bon, après, l'homme et voix, c'est plus rigolo, hein.
À mon tour, je vous remercie pour votre présentation. Je vous félicite évidemment aussi pour votre découverte, hein, une sorte d'eureka, hein, de point de vue. Et bon, évidemment, ça illustre, j'essaie toujours de faire des connexions entre les différentes interventions de la semaine d'atelier. Ce que vous montrez, c'est la nécessité impérative de récuser en doute les idées reçues, la nécessité de retourner au manuscrit, aux sources, évidemment, et peut-être aussi de ne pas prendre pour argent comptant les rapprochements qu'on peut faire, comme le soulignait Cécile, comme il a été souligné hier matin sur la base d'autres exemples, c'est qu'une source peut en cacher une autre. Non, c'est que, évidemment, il faut essayer de voir si, quand les différences s'affichent, s'il n'y a pas d'autres cheminements possibles de la tradition. Alors, je vous poserai une question tout à fait naïve, à laquelle peut-être vous avez déjà répondu, mais que je n'aurais pas capté. Quelle est la diffusion de Gérard de Feltre? Quel est son degré de connaissance à l'époque?
6 manuscrits, dont 2 ne contiennent que la première partie, qui est la partie astronomique. Dans la partie astronomique, il n'est pas original lui-même, c'est un peu la compilation de textes astronomiques qui sont très connus à l'époque. Donc 2 manuscrits contiennent que cette partie. Les autres trois, sur quatrième, je ne sais pas encore, contiennent la troisième partie. Je ne connais pas d'autres auteurs de la Renaissance ou du Moyen-Âge qui connaissent Gérard de Feltre. Je ne sais pas.
Ma question n'est pas simplement érudite, c'est que je me pose en fait...
Il n'est pas très diffusé, le traité. Bon, oui. six manuscrits, bon, disons 4 manuscrits, parce que vraiment ce qui est intéressant, c'est la troisième partie. 4 manuscrits, oui. C'est pas beaucoup.
Parce que finalement, la question que je me pose, c'est de savoir, vous avez parlé du double prologue, je me demande, il n'y a aucun indice d'un rapport à une source autre dans les prologues et dans le texte de Marcille Fissin?
Non.
Donc il s'engage finalement dans une logique qui est je est un autre en fait, dans une logique d'écriture clandestine, radicale, dont il ne donne aucun indice de logique, quoi.
Non,
de principe.
Après, c'est quand même un texte qui n'a pas été publié, je ne sais pas, peut-être c'est embrouillant, peut-être ce ne sont que les notes, peut-être il aura tout réécrit. Je ne veux pas l'accuser du plagiat non plus.
Non, voilà. Bon, c'est bien que la notion d'auteur, la notion de propriété qui est impropre, disons, pour le Moyen-Âge intellectuel, n'a pas cours. Mais quand même, il y a aussi la logique d'autorisation par la référence à un tiers,
sûr,
qui est un des tours de la rhétorique prolégétique. Évidemment, le caractère inachevé de l'œuvre empêche de... Mais à vos yeux, il n'y a aucun indice d'une déclaration de dette de la part de Marcel Fissin.
Non, mais je pensais d'abord que ce passage-là où il y a Jean qui apparaît, qui essaie de cacher, au fait. Il introduit un certain Jean, et mais au fait, non, chez lui, c'est aussi sa distinction 10. Ouais. Je supposais, d'abord, après j'ai regardé ce manuscrit, non. Il n'y a aucun indice. Non. Mmh.
Cela dit, ça reste un scénario assez hallucinant. Que fait Marcel Fissin ? Il dit, bon, ben, l'astrologie, je vais la défendre. Et en fait, il l'achève.
Oui.
Puisqu'il la rend indéfendable. Enfin, c'est une sorte de crime passionnel.
T'aime,
je vais tout faire pour te mettre en exergue. Mais ce faisant, je te réduis à néant.
Bah non, il ne dit pas au fait qu'il va la défendre, il dit qu'il va la critiquer. Il ne dit pas, c'est Ornel Pompeo-Forakovic qui a supposé qu'il va la défendre. Il a pensé qu'il y a une partie critique dans la disputation, une partie où il commence à être plus loyal à l'astrologie, il a divisé, mais au fait, non, ça ne marche pas tellement, c'est la critique.
Ouais.
C'est la critique.
Et au bout du compte, il tue la bête, quoi, quand même.
Oui.
Vous ne pourrez pas aller vous chercher dans les archives des Dominicains à Rome ou ailleurs qui était cet homme-là. Est-ce qu'il a fait le reste
Non, bah, oui, il faut que je cherche. Après, on a déjà cherché avant moi. Il n'est quand même pas entièrement inconnu. On sait qu'il existait, qu'il a écrit la Summa de Astres. Il a aussi écrit un petit traité sur la comète. Il y a une comète qui est apparue aussi en 1265. Il y a un petit traité sur la comète conservé dans un manuscrit en Allemagne. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je n'ai pas lu. Personne n'a lu pour l'instant. D'après quelques recherches qui existent sur Gérard de Feltre, il existe... Bon, 3-4 articles. Non, on ne sait rien. On ne retrouve pas dans les archives. C'est un Dominicain qui connaissait bien l'œuvre de Thomas d'Aquin, parce que lui-même, il a reproduit dans la Summa de Astres un immense passage du traité de Veritate de Thomas d'Aquin, sans jamais citer Thomas d'Aquin. Puis moi aussi, je trouvais de quelques extraits. Il me semble que ça aussi, ça provient du Commandeur de Saint-Anse de Thomas d'Aquin. Il y a une hypothèse qu'il a écouté Albert Legrand, s'il a fait les études à Paris, qu'il a pu écouter Albert Legrand, parce que dans la partie astronomique de la Summa de Astres, il y a une distinction sur les comètes qui ressemble au traité d'Albert Legrand sur la météorologie, ce qu'Albert Legrand dit sur les comètes, mais pas tout à fait. Donc de ça, on suppose que peut-être c'est parce qu'il a lu le texte, il n'a pas repris notamment, c'est ce qu'il a écouté le cours et il a fait une reportage. Mais au fait, on ne sait rien, on ne retrouve pas. Dans les archives, on retrouve seulement, comme Gérard de Feltre, l'auteur de la Summa de Astres.
Oui, je voulais rebondir sur ce qu'a remarqué Joël, sur le fait qu'il y avait quand même une différence de style absolument importante entre les écrits de Fissin et ce texte. Ça aurait quand même dû mettre la puce à l'oreille des historiens. Donc c'est assez frappant que peut-être l'image qui se faisait de Fissin et de la science médiévale et de la science renaissante les ait aveuglés à ce point-là. Et en fait, ma question est la suivante. Qu'est-ce qui, toi, t'a mis la puce à l'oreille ? Comment tu as fait le lien entre les deux textes ? Est-ce que tu t'as remarqué cette différence de style et tu t'es dit, tiens, ça ressemble au Moyen-Âge, je vais aller chercher ? Est-ce que c'est le hasard ? Tu connaissais Gérard ? T'as lu Fissin ?
Le pur hasard. Je fais le master sur Gérard de Feltre. Master. Et après, je suis tombée par hasard sur une citation de Marcel Fissin dans la disposition. Tiens, ça ressemble à quelque chose. Ouais. Ça ne m'aime pas parce que la différence de style, mais ça ressemblait. Je pensais, bon, je vais regarder, peut-être il le cite. Ouais. Peut-être qu'il l'a utilisé, mais oui, en fait, il l'a utilisé. Je n'ai pas attendu qu'il l'ait utilisé autant. Ouais.
Bravo, en tout cas.
Oui, j'ai encore une autre petite question, peut-être que je n'ai pas bien entendu ou compris. Tu as dit qu'il y a 6 manuscrits, hein, c'est ça, de Jarre, de Feltre.
Ouais.
C'est de Feltre qu'il est, c'est-à-dire de Vénétie, là. Il est italien.
Oui.
Oui, oui. Et donc, est-ce qu'il y a des, parce que, est-ce qu'il y a des manuscrits, où sont les manuscrits, en fait, et est-ce qu'il y en a un? Alors, peut-être que tu l'as dit, mais je n'ai pas suivi.
Non, je n'ai pas dit.
Qui est, parce que 6 manuscrits, c'est quand même pas mal. C'est, bon, c'est pas un texte qui a beaucoup circulé, mais enfin, il y a pire.
Oui, mais je dirais que vous ne faites pas 6, je dirais que 4. Parce qu'il y en a 2, il y a seulement la partie sur, sur l'astronomie.
Donc, il y en a que 4 qui sont. Mais même 4, franchement, ça reste raisonnable pour un texte bon, qui, quand même, n'intéresse pas tout le monde. Mais alors, est-ce qu'il y en a un qui est, que tu peux identifier comme étant celui qui a possédé Marcel Fissin parce qu'il est actuellement, je ne sais pas, à Florence ou quelque part, ou non, pas du tout, ou t'as,
bah,
t'es pas posé la question, tu les as peut-être pas tous vus.
Je sais pas, il faut que je cherche. J'ai vu 2 sur ces 4, ils sont incomplets. Il y a le manuscrit de Bologne, il n'y a pas de femme, ce n'est pas terminé, c'est interrompu comme ça au milieu de la phrase, donc sans doute il ne l'a pas utilisé celui-ci, le manuscrit de Bologne. Il y a le manuscrit de Milan qui est incomplet, mais là, c'est un peu plus compliqué. C'est comme si on a extrait 10 pages au milieu. Comme si quelqu'un... Mais il faut voir le manuscrit, si c'est possible,
qu'il y a un cahier, oui,
cahier qui a disparu. Je n'ai pas vu le manuscrit, j'ai vu que le microfilm. Sur 2 autres qui sont au Vatican, je ne sais pour l'instant rien. Mais ça m'intéresserait, oui, d'identifier ce qu'il a utilisé.
Oui, parce que peut-être que, puisque tu connais très bien les textes, bon alors après c'est un gros travail, est-ce que ça vaut le coup de le faire, enfin peut-être, c'est à toi de voir, mais par les variantes qu'il peut y avoir, comme il est quand même assez précis, peut-être que ou les erreurs qu'il fait dans, parce
oui,
que,
oui, je pensais à la base de ceux deux là que je connais, mais pour l'instant non, il y a rien qui me pourra indiquer, non.
Bon, ben je conclue, pareil. Ben juste pour dire combien on était heureux d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que vous l'êtes autant que nous. Que... que je remercie vraiment mes 3 collègues pour avoir compris ce que je voulais faire aujourd'hui et d'avoir bien démontré ce que je voulais démontrer, qui était que finalement, ben cette coupure entre le Moyen-Âge et la Renaissance, c'est... et hautement artificielle, et que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut dire traditionnellement. Et je pense, voilà, qu'on espère vous avoir convaincu qu'il y avait aussi des choses encore à faire et à trouver, et qu'on pouvait faire de très belles découvertes. Vous voyez, le hasard fait qu'on trouve encore des choses qui remettent en cause des idées reçues. Voilà, je ne sais pas si mes collègues veulent ajouter quelque chose à ça.
Merci à nos amis, comme toujours, et au CESM aussi, qui permettent d'organiser ces journées à Martin Aurel, Cécile, qui a toujours été avec nous, et puis Pierre-Marie, bien entendu. Et j'espère que les étudiants ont été convaincus que ça vaut le coup de faire des recherches. Mais Dieu va, hein. Vous voyez la qualité des interventions, ça donne envie.
Donc, si on considère que la séance est terminée, je profite juste pour signaler la conférence médiathèque qui aura lieu tout à l'heure à 18h30, ce qui est un des témoignages supplémentaires de l'ouverture de l'université vers la cité, l'intérêt du CESCM pour des partenariats ouverts, aussi bien ici à l'espace Mendès France que à la médiathèque. Donc je vous invite évidemment tous à la conférence de Jacqueline Cerchidini, qui sera d'un enrichissement certain, puisqu'elle va nous donner ce qu'elle n'a pas, en nous parlant du testament de Villon, sous le titre de « Donner ce que l'on n'a pas ».
Merci à tous. Bonne soirée.